Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous avons tous l'image en tête des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, dans lequel le personnage de Louis XIII nous apparaît mélancolique et triste, parce que obligé d'admettre que son pouvoir est partagé entre sa personne et celle du cardinal en rouge, le cardinal de Richelieu. En son temps, et dans la même veine, Voltaire écrivait à propos du roi de France, malade, triste, sombre, insupportable à lui-même. Michelet, de son côté, était bien plus sévère puisqu'il le qualifiait de maigre Jupiter à moustache pointue. Pendant longtemps, les manuels scolaires, de leur côté, ont entretenu cette image d'un roi faible, d'un roi falot, d'un roi insignifiant, écrasé par l'extraordinaire personnalité de son ministre. Hugo, lui, écrivait « Richelieu est le flambeau, le roi c'est la lanterne qui le sauve du vent sous sa vitre un peu terne, mot terrible et lourd de sens ». Bref, le personnage de Louis XIII nous semble un peu terne, écartelé aussi entre la majesté et la popularité d'Henri IV et son fils resplendissant Louis XIV, le roi soleil. Je vous propose aujourd'hui de casser cette légende grise en découvrant un autre Louis XIII, un Louis XIII qui tout de même a régné 33 ans, un Louis XIII qui a su préparer et affermir un pouvoir royal dont bénéficiera pleinement son fils, un Louis XIII qui a su aussi préserver l'indépendance de son pays à l'extérieur et imposer son autorité à l'intérieur. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai reçu à plusieurs reprises au micro d'Un jour dans l'histoire. Nous avons évoqué beaucoup de sujets ensemble. Nous avons évoqué bien évidemment Louis XVI, votre biographie majeure, que j'apprécie davantage que votre Louis XIV. Et là, vous venez de commettre un Louis XIII chez le même éditeur, aux éditions Perrin. Et un Louis XIII, nous le disions avant cette émission, qui est très très attachant, nous le verrons pourquoi, parce que notamment c'est un personnage qui est malade tout au long de sa vie, c'est un personnage qui perd son père très jeune. Voilà. Alors, peut-être une première question sur cette légende grise. D'où vient au fond cette légende grise? Non pas une légende noire, on insiste, une légende grise, terne.
Elle vient des romantiques essentiellement. Elle vient de Vigny avec son roman Saint-Marc, d'Hugo, Marion de Lorme, Les Trois Mousquetaires, bien entendu, d'Alexandre Dumas. Vous l'avez dit, les manuels secondaires, les manuels de l'histoire officielle ont embrayé sur cette légende, sur ce roi triste, mélancolique, ne passant son temps qu'à chasser, ce roi fainéant, au fond, esclave couronné, comme on l'a dit. Je me souviens, parce que j'ai consulté ce manuel Auger Petit de 1893-1923, donc qui a pendant une longue période été en usage dans les écoles de la République, où l'on voit une petite gravure représentant Louis XIII assis à une table, écrivant, donc avec une belle plume d'oie, sous la dictée d'un Richelieu debout derrière le roi. Ça, voilà ce qui a entretenu la légende. Et cette légende, elle a aussi été utilisée par les grands historiens. Michelet, vous en parliez. Michelet a écrit 2 tomes pour traiter de cette période. Premier tome intitulé « Henri IV et Richelieu ». Deuxième tome « Richelieu et la Fronde ». Et Louis XIII. Louis XIII a disparu complètement. Les manuels de l'enseignement supérieur, les ouvrages de recherche nous parlent de la France de Richelieu, de l'armée de Richelieu. Il y a un excellent ouvrage qui est sorti par un chercheur anglo-saxon sur ce thème. Mais Louis XIII disparaît et j'ai voulu, dans ce livre, réhabiliter ce mal-aimé de l'histoire qui est pour moi un grand roi méconnu, coincé évidemment entre le règne brillant d'Henri IV et celui éblouissant de Louis XIV, avec du surcroît un premier ministre écrasant, bien entendu, qui est Richelieu, l'homme rouge, le tyran, comme on l'a dit, mais on en reparlera peut-être, c'est un personnage assez différent différent de ce qu'on se représente habituellement. Et donc ce roi a été malmené, ballotté et oublié un peu des historiens.
Alors il y a, j'allais dire un semblant, mais tout de même, non pas un semblant, mais un renouveau historiographique. Mais souvent, ce renouveau historiographique est indirect. Par exemple, Françoise Hildesheimer, qui a beaucoup précisément travaillé sur Richelieu, a réhabilité tout de même le personnage.
Tout à fait. Alors, il faut dire qu'il y a eu des tentatives de réhabilitation, et je ne sais pas moi-même si j'y parviendrai, mais il y a eu des tentatives de réhabilitation tout au long du 19e, du 20e, de Louis XIII. Ça commence même avec Marius Topin dans les années 1880, et jusqu'à la grande biographie parue il y a 30 ans de Pierre Chevalier, en passant par Batifolle, qui avait fait des travaux très solides, très intéressants, Louis Vaunois également. Il reste que la figure de Louis XIII demeure dans l'ombre. Et les derniers travaux sur Richelieu ont montré, en effet, par la bande, l'importance de ce roi. Et vous avez cité avec raison les travaux de Françoise Hildesheimer, qui a montré que ce roi était beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Et c'est un peu la suite de ces travaux, parce qu'on a réhabilité Richelieu, on a montré que ce n'était pas l'adepte de la réelle politique, comme nous le faisait croire Henry Kissinger, par exemple, ou d'autres, voire certains historiens. Le roi Richelieu est un homme très pieux d'abord, qui écrit des manuels de morale religieuse, donc attaché à la morale catholique. Ce n'est pas un machiavélien pur et dur. En revanche, il estime que la politique doit avoir une certaine autonomie par rapport à la foi, et c'est ce qui fait son originalité. Mais la personnalité même du roi n'a pas été véritablement abordée depuis excessivement longtemps, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre.
Alors venons-en justement au personnage, mais avant tout, un petit mot des sources. C'est très rare pour ne pas être souligné, lors de cette émission, il y a une source majeure que vous citez régulièrement au cours de votre ouvrage. Il s'agit de la source écrite par Jean Hérouard. Quelle est cette source ?
Jean Hérouard, c'est le médecin du roi nommé par Henri IV, avant même la naissance du dauphin. Henri IV était persuadé qu'il aurait un fils, et il a dit « je vous nomme médecin de mon fils ». Alors, on ne savait pas évidemment le sexe de l'enfant, c'est en 1601. Et Jean Hérouard va tenir la plume d'un journal quotidien jusqu'à sa mort, restant le médecin principal du roi à sa mort, qui survient en 1628 au moment du siège de La Rochelle. Donc nous avons là un tableau clinique extraordinaire de la vie de ce roi. Nous n'avons de précision sur aucun roi à ce point, ni Louis XIV, ni Louis XV, ni Henri IV. Là, c'est un document brut avec toutes les notations physiologiques de l'enfance, la couleur des selles, de l'urine. Ça, c'est les réactions du bon médecin de l'époque. Les premiers cris, les gazouillis, les barbouillis, les gribouillis, les premiers bons mots de l'enfant. Tout est noté scrupuleusement pour les historiens, puisque ce sont les historiens qui ont utilisé ce document exceptionnel, qui nous renseigne aussi sur la chronologie, sur les déplacements du roi. Vraiment, là, on est aux anges quand on dispose ce document, qui, d'ailleurs, il faut le préciser, a été publié il y a 20 ans dans une édition scientifique définitive faite par Pierre Chenu et Madeleine Foisil. Là, nous disposons, les historiens disposent d'un document remarquable dont le manuscrit se trouve toujours à la Bibliothèque nationale de France.
Alors venons-en à la jeunesse. Je souhaiterais aborder au cours de cette émission peut-être faire trois éclairages sur la vie de Louis XIII. La jeunesse parce qu'elle est importante. Ensuite, étudier les rapports de Richelieu et de Louis XIII. Et enfin, voir les rapports de Louis XIII et de son épouse qui sont des rapports politiques majeurs, comme nous allons le voir. Alors, quitte à enfoncer une porte ouverte, on dit souvent que la jeunesse détermine la suite des événements, mais là, il s'agit d'une jeunesse vraiment spécifique, c'est un jeune Louis XIII qui vient au monde, qui a un caractère bien trempé, et vous lui présentez des traits de caractère qu'il va garder tout au long de sa vie.
Absolument. Alors, il est élevé à Saint-Germain, donc en retrait de la cour, au château vieux de Saint-Germain, le seul qui subsiste, puisque vous savez qu'il y avait deux châteaux, il y avait le château vieux et puis le château neuf qui donnait sur la vallée de la Seine, et le château neuf qui a été construit au début du XVIIe siècle, donc du temps d'Henri IV et au début du règne de Louis XIII, a disparu aujourd'hui. Donc il est élevé dans ce château, le château vieux, avec, chose extravagante, et c'était la volonté d'Henri IV, avec les bâtards du roi. César et Alexandre Vendôme, avec les enfants de Gabriel d'Estrées, le petit Moret, fils de Jacqueline de Bueil, le petit Verneuil d'Henriette d'Entragues, Mademoiselle de Vendôme. Et tout ce petit monde vit bien protégé par une compagnie de gardes françaises, avec une gouvernante qui est Madame de Monglas, Mamanga, comme l'appelle le dauphin. Et nous voyons se forger le caractère de ce futur roi. Il est vif, très réactif, on dirait aujourd'hui, bon, mais autoritaire, et extrêmement autoritaire, colérique même. Il adore jouer aux soldats, à la guerre. Je suis un soudat, comme il dit. Et on a fabriqué une petite armure, on a fabriqué une petite arquebuse, une petite pique, un canon. Et c'est lui qui commande. Et il bat du tambour. Il a aussi un petit tambour, mais il préfère le grand tambour de la compagnie des gardes. Et il fait mettre la compagnie des gardes, qui se prête gentiment à ce jeu, en rang. Il est passé en revue. Et il veut être le maître. Toujours le maître. Et il est à l'égard de ses demi-frères et de sa demi-sœur très, très autoritaire, très dur. Alors, bien sûr, c'est des jeux, il s'amuse, c'est les jeux d'enfants. Mais il est très conscient de son rang. Un mot d'enfant, on lui demande, et alors le petit Moret, comment vous le considérez par rapport à vous? Et alors il ose dire, il est après ma merde que je viens de faire, après ma merde que je viens de faire. Le rang, toujours le rang. Il oblige par exemple son précepteur, qui a reçu l'autorisation de rester assis à côté de lui, en se rapprochant son siège de son précepteur, et je vous obligerai bien à vous lever. Voilà une certaine agressivité, une susceptibilité, des caprices d'enfant, des colères très, très violentes, et Henri IV n'hésite pas à lui faire donner le fouet, de même que sa mère, Marie de Médicis. L'enfant pousse des cris, il est encore plus en colère, évidemment. Tout cela se mêle aussi à un état de santé qui commence déjà à donner des signes inquiétants dès sa jeunesse. Il a des problèmes intestinaux, avec des poussées très violentes de gastro-entérite. On ne sait pas très bien ce qu'il a, et c'est seulement vers 1627, donc quand il aura 26 ans, que se déclarera une très grave maladie, une entéropathie chronique que les médecins aujourd'hui, semble-t-il, parce qu'on n'a pas une certitude absolue, identifient non pas à la tuberculose intestinale comme on l'a fait au 19e, mais à la maladie de Crohn, qui est une maladie qui a été découverte par les Américains en 1932.
Vous publiez d'ailleurs, vous êtes adressé à un médecin pour avoir une sorte de rapport médical.
Absolument, le docteur Krenik, qui est un grand spécialiste de l'entéropathie et qui a publié un rapport sur ce sujet. Oui.
Alors vous parliez de ses demi-frères. Il est très exclusif à l'égard de son père, Henri IV. Et Henri IV joue un rôle majeur dans son éducation. On se doute le choc qu'a dû représenter l'assassinat d'Henri IV.
Ah, c'est quelque chose d'épouvantable. Il a 9 ans à ce moment-là. Il adore son père. Tout le monde connaît l'image d'Épinal d'Henri IV à quatre pattes avec ses enfants juchés sur lui et l'ambassadeur de Venise qui arrive au milieu de cette scène de famille. C'est vrai. Ceci étant, Henri IV est un éducateur sévère, mais il est adoré par le petit. Alors, en revanche, sa mère, Marie de Médicis, est une mère qui n'aime pas son fils aîné, qui va reporter toute son affection sur le dernier, sur Gaston, duc d'Anjou, puis duc d'Orléans, celui qui va conspirer constamment contre son frère aîné.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'une biographie consacrée à Louis XIII, un ouvrage paru chez Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant.
Retrouvez nos émissions consacrées à l'histoire en compagnie de Christophe Dickès dans notre émission Un jour dans l'histoire. Témoins, acteurs, les plus grands historiens contemporains sont invités sur Canal Académie à partager leurs points de vue, leurs analyses, leurs travaux historiques. Découvrez également les rubriques Éphémérides et Portraits. Éphémérides revient sur une date charnière de l'histoire. Les portraits sont consacrés aux personnages influents. Toutes ces émissions sont sur Canal Académie en libre téléchargement.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je suis heureux de recevoir Jean-Christian Petit-Fils, auteur du livre Louis XIII, une biographie donc parue chez Perrin. Alors vous avez un peu décrit cette jeunesse, Jean-Christian Petit-Fils. Je voudrais tout de suite aborder finalement cette France du début du XVIIe siècle. Je vous ai reçu à propos de Louis XIV au micro de Canal Académie, à propos de Louis XVI et la France de Louis XIV, la France de Louis XVI, la France de Louis XIII diffèrent les unes des autres.
Ah oui, alors c'est une France qui se remet difficilement, lentement des guerres de religion de la fin du XVIe siècle, qui se remet assez bien finalement. C'est le moment où Henri IV se fait assassiner. Henri IV avait envisagé de partir en guerre et là peut-être se lançait-il dans une aventure assez redoutable puisqu'il allait affronter la maison d'Autriche et indirectement les Espagnols, les impériaux d'un côté et la maison d'Autriche de l'autre, à propos de la succession de deux duchés, Clèves et Juliers en Allemagne. Mais la France à cette époque, donc, c'est évidemment une France essentiellement rurale, dont les frontières sont très mal protégées, puisque l'Artois n'est pas française, l'Alsace, la Lorraine bien sûr, la Franche-Comté non plus, la Franche-Comté est espagnole. Et puis, la Savoie, bien sûr, ne l'est pas, le comté de Nice. Donc, on a une France plus réduite, plus ramassée, avec une population essentiellement agricole et une grande ville qui est la ville de Paris, d'à peu près 200, 250 000 habitants, qui va exploser au cours du règne de Louis XIII, puisqu'elle va probablement passer à 400 000 habitants. Ce qui est considérable, c'est l'une des plus grandes villes d'Occident à ce moment-là.
Quelle est à l'époque la place, la nature du pouvoir royal ?
Alors le pouvoir royal, c'est un pouvoir qui essaye au fond de s'imposer, d'imposer l'État, des normes d'État à une société plurielle de corps, d'ordres, de statuts extrêmement divers, de populations hétérogène, moins de la moitié de la population française à ce moment-là parle le français. Donc il y a des patois, des langues régionales et le principe d'unité, c'est la monarchie. La monarchie, bien sûr, qui s'ancre dans le ciel par l'onction de Reims, mais qui a énormément de mal sur le plan concret, sur le plan pratique, à faire prévaloir ses vues. Et c'est tout le problème de ce qu'on a appelé l'absolutisme, qui est en réalité une tentative de centralisation menée par ce pouvoir dans cette société très difficile à pénétrer, hérissée de privilèges, de liberté au pluriel, qui en fait conduisent à l'immobilisme.
On en vient, j'ai dit tout à l'heure que nous allions parler d'Anne d'Autriche et de Louis XIII, mais peut-être un mot sur Marie de Médicis, puisqu'il y a évidemment, Louis XIII est trop jeune pour gouverner. Il y a une régence. Mais je voudrais m'arrêter sur un moment qui est capital. C'est ce que vous appelez le coup de majesté, qui est ni plus ni moins que l'assassinat de Consigny. C'est un moment clé parce qu'on sent toute cette personnalité de Louis XIII qui a une volonté politique extraordinaire, qui veut véritablement avoir prise sur les événements.
Tout à fait. Alors, il faut rappeler qui est Concini, Concino Concini, qui est un aventurier italien venu avec Marie de Médicis de Florence, qui a épousé une Florentine amie de cœur de Marie de Médicis, confidente et qui a été élevée avec Marie de Médicis, qui est Leonora Dori, dite la Galigaille, qui va devenir, avec son mari, maréchal d'encre, on dira la maréchal d'encre, et lui sera le maréchal d'encre, un personnage très ambitieux qui, bien sûr, veut jouer au grand parmi les grands et être le plus grand parmi les grands, profitant de la faveur extrême de sa femme pour se faire attribuer des gouvernements, des gratifications, des pensions, et ayant autour de lui toute une série de fidèles qu'il subventionne et qu'il entretient selon les bonnes méthodes de ce XVIIe siècle. Mmh. Alors, ce personnage est arrogant, à tel point qu'il s'assied dans le siège royal lors de la tenue du conseil et Marie de Médicis écarte son fils en lui disant « va jouer » alors qu'il a 15-16 ans à ce moment-là, va jouer.
Il y a de véritables humiliations.
Elle humilie son fils et le roi, à l'automne de 1616, subit une très grave humiliation alors qu'il relève d'une grave maladie, toujours une maladie intestinale, et il est ignoré complètement. Il est convalescent, il se promène dans la grande galerie galerie du Louvre. On peut imaginer la scène. Et Concini s'approche avec ses gentilshommes, empanachés, regarde la scène et fait semblant de ne pas voir le roi. Le roi en est extrêmement humilié. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il prend la décision, semble-t-il, de se débarrasser de Concini. Alors comment se débarrasser ? Son idée, c'est de le faire arrêter. Non pas tuer, mais arrêter. Il répugne à donner un ordre de meurtre. Alors, on pourrait dire, c'est aussi dans la théorie monarchique, le roi est maître de toute justice. Il y a d'un côté la justice déléguée au Parlement, et puis il y a la justice retenue. Et cette justice retenue, il peut l'exercer dans des cas extrêmes, par une sentence de mort, ce qu'on a vu évidemment au moment de l'assassinat du duc de Guise.
Ce qui est important, c'est que nous sommes en 1616. L'épisode que vous décriviez,
1616,
c'était
1617,
le 11 novembre, et cela signifie que le roi a 15 ans.
C'est ça. Le roi a 15 ans et donc il est tout jeune, mais en même temps il sent que sa mère le tient à l'écart. Il est majeur depuis l'âge de 13 ans selon la théorie monarchique, et donc il voudrait participer au pouvoir, et sa mère l'en écarte au profit de ce couple infernal Concini qui capte toutes les richesses. Il va combiner avec quelques familiers, dont le fameux Luynes, un complot qui se prépare dans une petite chambre du Louvre. Et là, eh bien, on va discuter comment arrêter Concini, puisque le roi donne l'instruction de ne pas le tuer. On va choisir un baroudeur, si je puis dire, qui est le capitaine des gardes Vitry, un homme d'action, qui est d'accord pour faire ce coup, assez risqué, parce que si les choses ratent, échouent, bien...
C'est la mort assurée pour les autres.
Qu'est-ce qui va se passer? Et il va quand même poser la question. Sire, s'il résiste, qu'est-ce que je fais? Et Louis XIII se tait. Et à nouveau, il repose la question. Mais il peut très bien se défendre, il est bien entouré. Alors on décide d'isoler la soixantaine de personnes qui l'entourent, qui est armée jusqu'aux dents dans chacun de ses déplacements, de l'isoler en fermant la première porte du Louvre et puis de le coincer entre le pont dormant et le pont Levis. Mais c'est pas suffisant. S'il résiste, si jamais il... Et le roi se tait. Évidemment, Vitry va considérer que c'est une autorisation tacite pour tuer Concini.
Qui ne dit mot consent.
Voilà, à peine Concini est abordé et on lui signifie l'ordre d'arrestation, Concini fait juste un geste en direction de son épée. Immédiatement, il y a 5 pistolets qui sortent des capes des amis de Vitry, et Concini est tué à bout portant.
Alors, vous décrivez, après cette scène terrible entre sa mère et son fils, en quelque sorte, le fils congédiant la
Alors,
mère.
C'est ça. Alors, il est roi. D'abord, il monte sur la table en disant « Je suis roi ». Tous les courtisans sont là, étonnés de ce coup d'audace. « Je suis roi, enfin, je suis roi ». Et il était bègue, ce malheureux Louis XIII. Et il en oublie son bégaiement, tellement il est heureux. Et il désigne du doigt Monsieur de Luçon, Richelieu, qui a eu le malheur de s'aventurer dans le ministère Concini et qui, en fait, fait partie des perdants. Et il le congédie d'un geste d'autorité. Et puis, et surtout, il va congédier sa mère, Marie de Médicis, en l'exilant à Blois. Et là, il y a une scène un peu pathétique où la mère supplie et le jeune roi reste inexorable et de glace, laisse sa mère partir alors qu'elle voudrait obtenir tel ou tel avantage. Tout a été réglé minutieusement. Cette guerre, parce que va se dérouler pendant encore plusieurs années entre la mère et le fils, il y aura 2 épisodes guerriers avec la défaite finale des ponts de Cé, où le jeune Louis XIII, qui est un ardent guerrier, on le voit déjà dès sa jeunesse, comme on le disait, eh bien, va bousculer l'armée de sa mère, vrai danger.
L'image de la monarchie, du pouvoir royal, s'en trouve renforcée, parce que au fond, vous décrivez un peuple parisien heureux de voir que ce Concini a été renversé.
Ah oui, tout à fait. Le roi est heureux d'avoir enfin un roi à sa tête. Et alors là, c'est le modèle henricien qui, évidemment, réapparaît. On a un nouvel Henri IV. Et il faut dire que Louis XIII va jouer aussi sur ce modèle. Il va être le chef de guerre, l'homme au panache blanc. Il le montre à plusieurs reprises. Au moment du pas de Suse, il prend la tête de l'armée, il part en armure et il entraîne ses hommes à l'assaut des défenses du duc de Savoie en 1629. En 1636, alors c'est absolument étonnant, c'est que la France est envahie, Corbie est tombée, les premiers avant-gardes des Croates de Jean de Werth sont apparus à Pontoise, la panique règne dans toute la Picardie, c'est une sorte d'exode comme en 1940, les paysans marchent avec leurs bestiaux et puis leurs baluchons, et Paris se vide, tous les bourgeois filent vers la Loire, et il y a un seul homme qui résiste, c'est pas Richelieu, qui se terre dans son hôtel particulier, c'est Louis XIII qui reçoit les différents corps de métier, qui organise le recrutement d'une armée de secours pour aller arrêter l'ennemi et organiser une sorte de résistance. C'est la première bataille de la Marne, en quelque sorte, qui va se dérouler au XVIIe siècle. Et Louis XIII réussira, en effet, à arrêter l'ennemi et à reprendre Corbie. On ne le souligne pas suffisamment, mais Louis XIII est aussi un grand roi de guerre.
Un grand roi de guerre, ce n'est absolument pas un pleutre. Il aime se battre, il aime la guerre et il n'hésiterait pas à s'exposer.
Ah oui, alors c'est même un roi soldat. Alors que Louis XIV aussi a du courage à la guerre, il aime la guerre, mais il lui faut ses aises. Dans sa tente, il lui faut son lustre de cristal, il lui faut ses 24 violons. Et puis chaque jour, on lui raconte les progrès du quart de la demi-lune qu'on a prise le jour même, parce que ce sont des sièges et ça se passe très lentement. Louis XIII, lui, part à la tête de ses armées, couche dans la paille, y compris dans une masure qui a été la veille occupée par les ennemis. Il vit comme un soldat, c'est vraiment un roi soldat, et c'est le dernier grand roi de guerre qu'on ait eu en France. Louis XV ne sera pas un roi de guerre et Louis XVI n'aura aucune connaissance militaire, hormis la marine, bien entendu.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure Richelieu qui se fait congédier. Richelieu, d'ailleurs, manque de se faire écharper dans Paris et il s'en sort en criant « Vive le roi ». Tout le monde connaît, après la suite de l'histoire, justement, quels sont précisément les rapports entre le roi et son ministre. C'est ce que je vous propose de voir dans un instant.
Les sciences de l'univers sont sur Canal Académie. Françoise Combes vous emmène au cœur des exoplanètes. Le paléontologue Philippe Taquet vous initie à la chasse aux fossiles. Suivez Claude Lorius en expédition au pôle Sud. Quant à Yvan Le Mao, il vous propose d'observer les manchots en terre à Delhi. Des rencontres uniques avec les académiciens des sciences, à télécharger librement, sans plus tarder, sur Canal Académie.
Je reçois Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'une biographie consacrée à Louis XIII, une biographie parue chez Perrin. Alors nous avons évoqué ce que vous appelez, Jean-Christian Petit-Fils, le coup de majesté qui montre un roi vraiment volontaire, jeune, il n'a que 15-16 ans, mais volontaire. Et on ne peut pas occulter finalement cette volonté royale qui ne va pas s'éteindre quand bien même un Richelieu est en face de lui. Et c'est ce que vous présentez, c'est vous rééquilibrez en quelque sorte la balance. Vous dites l'un ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas sans l'un. D'où vient cette légende d'une tyrannie de l'homme en rouge ?
Alors elle vient, à mon avis, du fait que Richelieu a usé de moyens policiers à l'encontre des grands et de la noblesse qui leur était rattachée. Le fait qu'on ait mis à la Bastille quelques grands seigneurs, quelques maréchaux, quelques ducs et pairs, a choqué profondément à cette époque. Et je pense que c'est ce traitement impitoyable, entre guillemets, parce que ces braves gens, ils étaient à la Bastille, ils avaient le droit de sortir de leur prison, ils jouaient aux boules dans la cour, c'était pas quelque chose d'épouvantable. Il y a ce côté manipulateur chez Richelieu, l'homme des réseaux, l'homme qui s'appuie sur le père Joseph, qui lui aussi est un manipulateur, un homme d'une grande piété, mais qui est animé d'un idéal religieux, de croisade contre les Turcs, mais en même temps aussi l'homme des informations secrètes, des réseaux, des couvents capucins qui correspondent entre eux à travers toute l'Europe. Donc c'est un côté un peu sombre. Cela dit, nous avons la certitude, ou la quasi-certitude, que jamais Richelieu, dans tout ce qu'on a de sa correspondance, et qui est quand même très important, a donné un ordre de tuer quelqu'un sommairement. C'est pas du tout une affaire de barbouze, comme on dirait aujourd'hui, un homme qui est qui donne de tels ordres. Mais il a eu, par cette réaction, et peut-être la première fois en France, ce comportement à l'égard des grands, eh bien, il a eu une réaction de rejet qui s'est prolongée et s'est amplifiée jusqu'au romantique dont on parlait tout à l'heure.
Alors, vous le présentez, effectivement, vous restez longuement sur la présentation du personnage Richelieu, un homme extrêmement fortuné, un homme avec une clientèle, avec un réseau à nul autre pareil. Et en vous lisant, en fait, je pensais à un autre personnage qui lui-même était fortuné, qui lui-même avait un réseau, c'est Fouquet. Mais voilà, Richelieu n'est pas Fouquet.
Richelieu n'est pas Fouquet. Fouquet a voulu s'imposer en construisant un réseau et en imposant sa propre personne au roi. Richelieu a manœuvré tout doucement. Après cet échec du ministère Concini, a cherché à jouer la carte de la réconciliation entre la mère et le fils. Et ça a été véritablement ce qui l'a permis de le propulser. Il s'est appuyé sur Marie de Médicis. Il est devenu le chef de son conseil. Et le roi, qui avait des remords et des scrupules chrétiens de s'être engagé militairement contre sa mère, mais il avait été contraint par cette femme qui était une femme impossible, qui ne rêve que d'exercer le pouvoir, non pas d'ailleurs parce que elle en a la capacité politique, elle est inintelligente, mais ce qu'il veut, c'est la vanité et attachée au pouvoir. Eh bien, Richelieu, donc, jouant cette carte de réconciliation, parvient à rentrer au conseil du roi en 1624. En 1629, il est déjà le principal ministre. Aujourd'hui, on dirait premier ministre. Et puis, en 1630, il y a une grande et orageuse explication, ce qu'on appelait le grand orage, le 11 novembre 1630, la journée des dupes. Là, il y a une sorte de rupture entre cette double fidélité qu'avait Richelieu. Il était fidèle à la reine-mère et fidèle au roi. Marie de Médicis veut se débarrasser de lui parce qu'elle le trouve trop envahissant, un personnage trop envahissant qui ne lui rend pas compte à elle, et somme son fils de le chasser du conseil. Et le premier jour, parce que ça s'est déroulé, cette journée des dupes s'est déroulée sur deux jours, les 10 et 11 novembre. Le premier jour, elle semble avoir réussi, parce que Louis XIII sort de son cabinet sans rien dire, du cabinet de la reine, sans rien dire, et Richelieu est déconcerté. Tous les courtisans se précipitent au Luxembourg, nouvellement construit, pour féliciter Marie de Médicis, laquelle, évidemment, n'a pas le triomphe modeste. On pense que c'est le garde des Sceaux, Michel de Marillac, qui va devenir le principal pivot du pouvoir à ce moment-là. C'est l'homme des dévots, d'une politique assez différente de celle de Richelieu. Et le lendemain, Richelieu, convoqué au petit château de Versailles, se voit confirmé dans ses fonctions, ce que d'ailleurs le roi avait toujours pensé faire. Et là, tous les courtisans quittent précipitamment le Luxembourg, où il n'y a plus personne autour de Marie de Médicis. C'est pour ça qu'on appelait la journée des dupes, puisque ce sont les courtisans qui ont été les dupes. Ils ont cru que Marie gagnait, alors que c'était Richelieu qui avait gagné.
Il existe entre les deux personnages, entre Richelieu et Louis XIII, vous écrivez une inégalité, qui est une inégalité fondamentale du fait de la place du roi. Mais est-ce qu'on peut parler de complémentarité? Parce qu'il y a quand même un processus décisionnel, en quelque sorte, qui appartient au roi. Mais bon, Louis XIII, quand même... voyait cette supériorité intellectuelle chez Richelieu.
Louis XIII ne nie pas la supériorité. Il en est probablement jaloux parfois, parce que c'est un homme sombre et jaloux, c'est indiscutable. Mais il y a une association très étroite entre un génie, qui est Richelieu, et une volonté. Qu'est-ce que le génie sans la volonté? Le génie, c'est bien sûr Richelieu, et la volonté, c'est Louis XIII. Et cette association des deux qui a permis à la France de fonctionner pendant 18 ans. Ce sont deux malades. On a parlé de la maladie et des maladies de Louis XIII. Il faudrait aussi parler des maladies de Richelieu. En juin 1642, quelques mois avant la mort du cardinal, les deux hommes, après le siège de Perpignan, se rencontrent dans des conditions dramatiques. C'est le complot Saint-Marc. Ils se rencontrent à Tarascon. Et tous les deux sont alités. Et on est obligé, pour qu'ils se parlent, de rapprocher leurs deux lits pour que ils puissent avoir des rapports, puisque en fait ils sont malades et ils peuvent plus se parler. Voilà. Donc la France a été gouvernée par deux malades pendant 18 ans. Alors ils n'étaient pas grabataires tout le temps, mais à la fin les choses allaient mal pour eux. Et on sait que Louis XIII est mort 6 mois après son ministre.
La vision politique de l'État de Richelieu est la même que celle de Louis XIII ?
La vision politique, je pense qu'ils adhèrent tous les deux à la même vision, c'est celle de la grandeur, de la gloire. Alors, ils se sont lancés dans cette guerre qui éclate pour la France, la guerre de 30 ans. La France entre en guerre en 1635, elle a débuté en 1618 avec la fameuse défenestration de Prague. La France se lance dans une guerre coûteuse, ruineuse, qui va déstabiliser le pays, entraîner des émotions populaires, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire des révoltes paysannes menées par des grands. Mais il y a une volonté. Au départ, il y a une provocation de l'Espagne qui oblige la France à entrer en guerre. C'est l'enlèvement de l'archevêque électeur de Trèves, qui était un allié de la France. Au début, la France n'a pas d'ambition territoriale. Et au fur et à mesure des victoires, Louis XIII et Richelieu n'ont pas envie de signer une paix blanche. Et par conséquent, veulent bien la paix, mais une paix avec des conquêtes. En particulier, ils songent à l'Alsace, ils songent à la Lorraine, à l'Artois, au Roussillon, qui ont été conquis, ou sont en grande partie occupés. Mais dans leur rapport entre eux, il faut dire que le roi tient le cardinal la bride serrée. Richelieu avoue que de 4 propositions qu'il fait au roi, 2 seulement en général, et il en est très content quand 2 seulement sont recueillies. Il le dira lui-même, les 4 pieds carrés du cabinet royal sont plus difficiles pour moi à conquérir que tous les champs de bataille de l'Europe. Richelieu qui dit ça. Donc ça montre bien le caractère ferme du roi, la volonté de bien montrer que le patron, c'est lui, c'est pas le grand cardinal. Et le cardinal a peur. Le cardinal, et vous avez cité tout à l'heure cet épisode de Concini où Richelieu a manqué de se faire tuer, ça restera gravé dans sa mémoire. Il a toujours peur de connaître le sort de Concini parce que ce roi est imprévisible. Et donc il se méfie beaucoup du roi. Autant c'est un homme manipulateur, un homme de réseau puissant, et c'est ce qui plaît à Louis XIII, puisque ça permet au roi de gouverner par son intermédiaire. Autant, dans les rapports avec le roi, les choses sont très différentes de ce qu'on a pensé généralement.
Dans ses rapports avec le Parlement, par exemple, Louis XIII apparaît beaucoup plus ferme que ne l'était Richelieu.
Il est beaucoup plus ferme que Richelieu. Richelieu est un noble de petite noblesse, ou de petite moyenne noblesse, très attaché à ses prérogatives. Il voit les montées, c'était la noblesse de robe à cette époque, avec une certaine méfiance, mais il est partisan de tempérer les choses, et surtout ne pas bousculer trop ce Parlement qui déjà montre des velléités d'indépendance. Et il le montrera bien sûr sous la Fronde après la mort de Louis XIII. Donc il est partisan d'une conciliation. Louis XIII est beaucoup plus énergique parce qu'il s'agit de son autorité personnelle. On raconte l'histoire à La Rochelle du président du Parlement de Bordeaux qui contestait les décisions du roi, et le roi lui dit « À genoux, petit homme, à genoux devant moi, à genoux devant votre maître !» Et il l'oblige à se mettre à genoux puisque l'autre refuse de s'incliner devant son roi.
Et le lendemain, il meurt d'une...
Et le lendemain, le malheureux meurt d'une crise cardiaque.
Est-ce qu'on peut parler d'une intimité entre les deux personnages, entre Richelieu et Louis XIII ? Est-ce que cela va jusqu'à l'intimité ? On sait que Richelieu espionnait, entre guillemets, le roi sous certains aspects. On sait que, vous le montrez bien dans votre ouvrage, que ses relations avec les femmes sont importantes. Parce que si ses relations avec les femmes sont bonnes, le roi va bien et l'État va bien. Donc, en dehors de ce canal, j'allais dire, officieux de contrôle et d'observation, est-ce qu'il existait une intimité entre les deux personnages ?
Il s'estimait, il s'encourageait. Le roi remontait le moral de Richelieu quand Richelieu l'avait perdu, et il le perdait souvent. Il proposait très constamment sa démission. Il perdait les pédales. C'est un hypersensible, Richelieu, un homme d'une très grande intelligence, c'est indiscutable, mais aussi un homme émotif et difficile à tenir, qui n'a pas les nerfs solides. Et donc c'est Louis XIII qui lui remonte le moral. Et bien, parfois aussi, le roi devient mélancolique, a des problèmes sentimentaux, avec avec ses favorites qui ne sont pas ses maîtresses, avec ses amis qui ne sont pas ses amants. C'est des rapports très, très complexes, liés au complexe de l'enfance, de la petite enfance, très, très certainement. Et donc, il s'en va à la chasse, il s'en va à Versailles. Et là, il faut que ce soit Richelieu qui remonte le moral du roi. Mais au fond, cette association, c'est quelque chose d'assez nouveau sur le plan politique. Parce que jusque-là, on avait un système politique qui reposait sur le favori. Le favori, c'est au fond l'ami de cœur, pas nécessairement l'amant ou le mignon, mais le favori, c'est quelqu'un qui est proche, c'est une sorte d'intendant qui règle aussi bien les questions privées que les questions publiques. On le voit en Angleterre avec le duc de Buckingham, par exemple. On le voit en Espagne sous Philippe III avec le duc de Lerme. Et en France, avec les Concini. Eh bien, là apparaît une nouvelle figure de la science politique. En fait, c'est le premier ministre, c'est ce qu'on appelle le ministériat. Donc, les rapports sont fondés sur la raison, sur l'idée qu'il faut gouverner la France, gouverner le pays, et mettre à part les questions domestiques. Donc, c'est cette séparation qui apparaît à ce moment-là. Cela étant, il y aura de l'admiration, il y aura de l'amitié entre eux, une certaine amitié, mais pas, qui n'ira pas très loin. Et puis, à la fin, Richelieu, en prenant ses aises de plus en plus. Au début, il avait refusé, par exemple, le dé quand il s'était emparé de Montauban, place protestante très puissante. On lui avait proposé le dé. Or, seul un roi peut être placé sous le dé, ou un gouverneur qui représente le roi, mais jamais un ministre. Il avait habilement refusé. Mais à la fin, il commençait à prendre des aises, espionnant le roi, et le roi le sachant, renvoyant les domestiques qui l'espionnaient. Les tensions se sont accrues jusqu'à l'affaire Saint-Marc, où là, dans les dernières semaines, il y avait une rupture très nette entre les deux. On ne sait pas ce qui serait passé s'ils avaient survécu, si Richelieu avait survécu.
Jean-Christian Petit-Fils, nous nous retrouvons dans un instant.
Les sculptures de Brigitte Terzieff entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. Nous avons rencontré Brigitte Terzieff dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Louis XIII. Je reçois Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'une biographie sur le personnage, une biographie parue chez Perrin. Alors nous avons évoqué avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, la jeunesse, la volonté du roi. Nous avons évoqué les liens entre le roi et Richelieu, tout en complexité. Je souhaiterais évoquer les liens du roi et d'Anne d'Autriche, donc son épouse. Il s'agissait d'un mariage politique. Alors, on a l'habitude de dire qu'à cette époque, on se mariait d'abord, on s'aimait ensuite. Là, ils se sont mariés, mais il n'y a pas eu véritablement un amour entre les deux personnages. Et surtout, il y a eu un enfant qui est arrivé, mais très tardivement. Alors, avant de parler de cet enfant, pour résumer au fond les rapports entre les deux personnages, il y a une affaire qui est l'affaire du Val-de-Grâce que vous présentez, qui résume en elle-même les rapport entre la reine et le roi.
Oui, l'affaire du Val-de-Grâce, elle se situe en 1637, donc c'est vraiment le roi et la reine, puisque tous deux ont le même âge, ont 36 ans. Ils n'ont pas d'enfant à ce moment-là. Anne d'Autriche est espagnole, et tout espagnole de cœur. La France, je l'ai rappelé tout à l'heure, est en guerre depuis 1635, en guerre contre l'Espagne, contre la maison d'Autriche, les Habsbourg de Vienne et puis les Habsbourg de Madrid. Cette situation, évidemment, déplaît fort à l'Autriche, qui se réjouit des défaites françaises et des victoires espagnoles, qui va, à partir de l'année 1636, entamer une correspondance secrète avec son frère, Philippe IV, qui règne à Madrid. Elle est elle-même fille de Philippe III, et avec le cardinal d'Infant, son autre frère, qui gouverne les Pays-Bas espagnols et la Franche-Comté. Le cardinal d'Infant, donc, installé à Bruxelles. Tout cela, donc, elle ne peut pas le faire au Louvre, puisqu'elle est étroitement surveillée, aussi bien par Richelieu que par son mari. Elle le fait au Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce qui n'est pas évidemment ce magnifique Val-de-Grâce qui a été construit par un Autriche, mais ça a été construit beaucoup plus tard dans le courant du XVIIe siècle, dans les années 1650-60. Là, on a donc un petit couvent qu'elle a elle-même installé avec des religieuses et elle se retire. Elle a un petit appartement et c'est là qu'elle écrit avec du jus de citron, à l'encre de l'encre
sympathique.
Ah, c'est du roman. Et on a une œuvre absolument remarquable dans laquelle d'ailleurs Dumas est venu un peu marauder. Ce sont les mémoires de Laporte. Laporte qui est le valet de chambre de la reine d'Anne d'Autriche, qui raconte ça de façon romanesque avec une équipée, lui-même est enfermé à la Bastille, comment les prisonniers se communiquent d'un étage à l'autre. Là, il y a véritablement un roman à écrire ou à réécrire à partir de ses mémoires. Donc, il reste que Anne d'Autriche écrit. Finalement, alors tout cela passe par l'intermédiaire de l'ambassade d'Angleterre à Paris. Les lettres transitent par Bruxelles, vont à Madrid. Une lettre tombe dans les mains de Richelieu, de sa police qui est bien formée, bien organisée. On va remonter la filière, faire une perquisition au Val-de-Grâce, changer la prieure de façon brutale. Et puis interroger toutes les religieuses. Et le chancelier Séguier va être même contraint par Richelieu d'aller au château de Chantilly interroger la reine. Et on a là aussi encore un épisode assez romanesque où, dit-on, Séguier aurait pratiqué une fouille corporelle. Alors ça, c'est tellement des réaux qui nous racontent ça, mais bon, pour voir si elle n'avait pas gardé un document par devers elle. La reine est en tout cas sévèrement honnestée. Laporte, le valet de chambre, est arrêté en Bastillé, en effet. Et elle est sévèrement honnestée, questionnée par Richelieu, questionnée par son mari. Elle doit signer un document reconnaissant qu'elle a trahi. Et en effet, elle a donné quelques renseignements. Elle n'en avait pas beaucoup, heureusement, mais elle trahissait. Reconnaissant qu'elle trahissait et évidemment jurant qu'elle s'amenderait. Voilà, alors, voilà les rapports. Voilà où ils en étaient après combien d'années de mariage. Ils s'étaient mariés en 1615, on est en 1637, donc 22 ans de mariage, un mariage qui était stérile. Ce n'était pas du fait de Louis XIII, c'était du fait d'Anne d'Autriche. Alors, au début, c'est vrai qu'elle avait 14 ans en 1615, lui aussi, la nuit de noces a été un échec. Et il a fallu 2-3 ans plus tard pour que le mariage soit consommé véritablement. Il y a eu un moment, une petite idylle entre le roi et sa femme. Ça n'a pas duré longtemps. Et très vite, Anne d'Autriche est restée isolée avec ses amis, avec sa fameuse amie, la duchesse de Chevreuse. Et se moquant du roi, n'aimant pas être avec lui, et le roi n'ayant pas un attrait particulier pour cette jeune reine qui était belle, qui n'était pas une splendide beauté, mais qui était une belle femme, comme le montrent les portraits de Rubens.
Mais le roi, parallèlement, était amoureux d'autres femmes dans sa vie, mais au fond, il cultive simplement un amour platonique.
Oui, c'est ça. Alors, il a des amours platoniques, un engouement pour Marie de Hautefort, une demoiselle d'honneur un peu piquante, qui le titille, qui s'amuse, qui se moque de lui. Il en souffre. Et puis, surtout, Louise Angélique de Lafayette, qui, elle, est une petite jeune fille douce, pieuse, qui finira au couvent. Elle sera visitandine et elle sera même supérieure du couvent de la Visitation de Chaillot ultérieurement.
Mais il y tient ferme parce qu'une personne de son entourage à un moment veut jouer l'entremetteur et Louis XIII le remet à sa place.
Ah oui, tout à fait. Oui. Alors,
il y a une haute perception de sa fonction et de sa fonction. Ici, on parlera de fonction même religieuse. En tant que roi, représentant d'un gouvernement divin, il ne commet pas d'adultère.
Ah non, il est très pieux, il ne commet pas d'adultère. Il a probablement aussi des tendances homosexuelles, c'est probable. En tout cas, il s'est entouré d'amis, de compagnons de chasse, et on a discouru sur ses relations avec Luyn en particulier, avec Barada, avec Saint-Simon, le père du mémorialiste, et puis avec le jeune Saint-Marc qui a été poussé par Richelieu au départ, ce qui montre d'ailleurs que les relations ne tombaient pas dans une homosexualité pratique. Il avait peut-être une homosexualité latente, mais il n'y a jamais eu de passage à l'acte chez Louis XIII. Saint-Marc a été poussé par Richelieu pour être un peu son agent, quelqu'un qui puisse l'aider, parce que le roi se méfie en effet de toutes ses amitiés, de ses affections particulières, aussi bien féminines que masculines. Louise de Lafayette est du côté du parti dévot, donc elle est favorable à une paix avec l'Espagne, à une paix blanche, à une paix le plus rapidement possible. Le père Cossin joue aussi un rôle un peu trouble dans tout cela, et Richelieu est obligé de se battre pour éviter que ce parti ne prenne trop d'influence près du roi.
Alors la naissance d'un dauphin est une affaire d'État, et en dépit de cet orage, il y a finalement la naissance de Louis Dieudonné, Louis XIV.
Alors voilà, après 22 ans de stérilité, on annonce que la reine est enfin enceinte. Elle avait eu 4 fausses couches, dont une avait provoqué l'ire de Louis XIII parce qu'elle avait heurté une marche du trône en courant dans un salon du Louvre avec son amie Madame de Chevreuse. Là, enfin, elle est à nouveau enceinte. C'est en 1638, donc c'est après l'affaire du Val-de-Grâce, après cette humiliation d'Anne d'Autriche. Le roi est sous l'influence à la fois de Richelieu et de Louise de Lafayette, qui est devenue religieuse. On lui a dit qu'il est absolument nécessaire de se rapprocher de la reine pour faire un héritier. Sinon, c'est qui va hériter de la couronne? C'est Gaston d'Orléans. Gaston d'Orléans, qui n'a cessé de conspirer, qu'a conspiré 6 fois contre son frère et qui a été 6 fois pardonné, mais qui est un conspirateur invétéré qui continue et qui continuera jusqu'à la mort de son frère. Anne d'Autriche, s'est rapprochée, et le roi s'est rapproché de sa femme, et ils ont conçu un enfant. Alors, il y a eu quantité de légendes. On a raconté que le père de Louis XIV n'était pas Louis XIII. C'est absolument aberrant de le penser, parce que la reine est extrêmement surveillée, et on n'imagine pas qu'un grand seigneur ait pu faire un enfant à la reine, surtout après l'affaire du Val-de-Grâce, où elle était vraiment cloîtrée.
Alors, vous tordez le cou, mais le but n'est pas de tordre le cou, mais vous rappelez que le vœu de Louis XIII, tout de même, ce n'est pas à cause de la naissance de Louis Dieudonné, donc son fils le dauphin, mais bien à cause d'une victoire militaire.
C'est la reprise de Corbie en 1636 qui a conduit le roi à remercier la Vierge et à faire don à la Vierge Marie de son royaume. Donc, c'est bien sûr, c'est à Dieu que le roi s'en remet, mais c'est par Marie, par l'intercession de Marie, qu'on sollicite une protection toute spéciale sur le royaume. Et vous savez que le vœu Louis XIII se prolonge encore aujourd'hui à Paris tous les 15 août.
Mais c'est un vœu tout en retenue, ce n'est pas, j'allais dire, de la bondieuserie. Il y a vraiment toujours un sens de l'État, et oui, une retenue des propos du vœu de Louis XIII.
Oui, absolument. Alors, les choses seront liées dès 1639, évidemment, on va remercier la Vierge de cette victoire, mais aussi d'avoir donné un enfant, puisque Louis XIV naît en septembre 1638. Et c'est à partir de là qu'on a confondu, on a considéré que le vœu de Louis XIII, c'était un vœu pour avoir un enfant. C'est pas exact, c'est en fait pour remercier la Vierge d'avoir sauvé le royaume.
Alors Jean-Christian Petit-Fils, nous arrivons au terme de cette émission, et je ne tiens pas à laisser nos auditeurs sans l'évocation d'une mort extraordinaire. Bon, nous avions évoqué la mort de Louis XVI, puisque nous avions fait une émission sur les origines de la chute de la monarchie et sur les raisons de la chute de la monarchie, donc sous Louis XVI. Là, nous avons une toute autre mort qui est une mort tout aussi belle, parce que c'est un homme qui souffre dans sa chair, et c'est une mort douloureuse, et c'est une mort d'une extraordinaire piété.
Oui, il a 42 ans. il sent qu'il va, il va disparaître. Il est atteint de cette maladie de Crohn qui va l'emporter. Il mourra en fait d'une péritonite aiguë, mais tout cela dans le cadre d'une maladie de Crohn, une maladie intestinale, qui va durer 3 mois à peu près, avec une déchéance très lente et à la fin un calvaire abominable. Ces médecins racontent des détails effrayants où on raconte qu'il recrachait des vers vivants par la bouche. Et avec ça, une piété extraordinaire. Il meurt quasiment dans les bras de Saint Vincent de Paul.
Il fait son introspection.
Oui, il se confesse de multiples fois, multiples reprises. Il est vraiment dans la foi. Il a écrit autrefois à De Profundis, qui sera probablement joué à sa mort. Il a écrit aussi des petits offices en latin avec l'aide du Père Caussin, qu'il récite. On a là l'exemple d'un pas d'un roi très chrétien, je dirais, mais d'un homme. Il est redevenu homme de ce point de vue. Il a réglé sa succession en organisant un conseil de régence liant Anne d'Autriche et en fait donnant le pouvoir, la quasi-totalité du pouvoir au cardinal Mazarin, qui est le successeur et le collaborateur de Richelieu. Il a donc tourné la page de la politique et il se prépare en tant qu'homme à paraître devant son créateur. Et là, il y a beaucoup de traits émouvants de le voir s'en aller peu à peu de cette façon.
L'agonisant, dites-vous, murmura alors quelque chose à l'oreille et on l'entendit soupirer dans un ultime effort le mot de Jésus. Saint Vincent de Paul écrivait « Depuis que je suis sur terre, je n'ai vu mourir une personne plus chrétiennement. » Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous écrivez dans les dernières pages, non pas de votre conclusion, mais de votre dernier chapitre, c'est que même sa mort contribue au fond à l'affermissement de la royauté et du pouvoir royal en ce siècle qui sera le siècle de la monarchie absolue.
Oui, et qui sera aussi le siècle des saints. Alors on va utiliser en effet sa mort chrétienne pour magnifier encore plus la monarchie absolue. Le vœu de Louis XIII aussi va, sur le plan politique, servir à raffermir autour du trône la famille des Français. Et on le voit aussi à la fin de sa vie, eh bien, malgré cette volonté d'humilité que n'aura pas un Louis XIV, évidemment, ce roi, voulant mourir seul en chrétien, sera exalté comme le nouveau Saint Louis. Donc, il y a une sorte de récupération, c'est sûr, par la monarchie de cette mort très belle.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu au micro de Canal Académie, Jean-Christian Petit-Fils. Je rappelle les références de votre ouvrage « Louis XIII », paru aux éditions Perrin, et je renvoie nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons pu enregistrer ensemble. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.